Alors sur la droite, on peut s'apercevoir que les deux cartes l'une sur l'autre viennent de tomber, alors que sur la gauche, elles tiennent fièrement sur la table. Je reprends mon château de droite, les deux cartes l'une sur l'autre. Oui, c'est gagné, je mets la carte supérieure, clé de voûte de l'édifice, j'entame les cartes du haut, et c'est gagné. C'est un magnifique château de cartes à base de 7 fils de destin qui vient d'être réalisé sous vos yeux émerveillés et larmoyants, je le constate.
Et maintenant, un bon boîte de cast.
Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes en compagnie de malades, du belga Mexique.
Un des pièces.
Ah, quand lui donne son bromure. Voilà, nous sommes en compagnie de... Nous sommes en compagnie de Thomas Provost.
Bonjour.
Et de Cédric Comont.
Hello.
De Repos Productions, et qui se lâche absolument dans un délire total, puisque on parle de prise de niveau et de chaussettes et de donjon de Nahulbeuk, puisque figurez-vous que donc le jeu de plateau du donjon de Nahulbeuk est chez Repos Productions et va sortir. Quand est-ce que donc?
Eh bien, probablement au mois de septembre.
Magnifique. Pour ceux qui ne connaissent pas la saga, vous avez déjà un exemplaire. Donc, ça va pas être facile, je le sais. Donc, est-ce qu'on peut reprendre l'historique du donjon de Nahulbeuk? C'est d'abord une saga MP3, et maintenant, 10 ans après, on est sur un jeu de plateau.
Exactement. Le principe du donjon de Nahulbeuk, ce sont des MP3 qui ont été faits par John Lang sur Internet. À la base, ça raconte l'histoire d'aventuriers débiles dans un donjon affreux qui s'appelle le donjon de Nahulbeuk.
Donc,
Slagvugzodo.
Il a faim.
Alors, la suite.
Le MP3 a bien fonctionné. Alors, le grand maître a décidé de faire une bonne décidée. Qui a été aussi très apprécié.
C'est que ça va être super dur à écouter pour les gens.
Et donc, nous avons bien aimé et nous allons faire le jeu de plateau du donjon de Nahulbeuk.
Donc, d'accord. Donc, c'est un jeu de plateau qui est aussi débile que celui qui vient de nous présenter le jeu. Pourquoi avoir voulu sortir un jeu sur le donjon de Nahulbeuk, monsieur Como?
Eh bien, qu'une voix normale, s'il vous plaît.
Oui. Bon, est-ce qu'on peut sous-titrer un podcast?
Oui, on va faire ce qu'on peut.
Bon. Alors, le donjon de Nahulbeuk, déjà, à la base, on était des grands fans de l'épisode radiophonique, enfin, de l'épisode podcast, donc, qui a été fait par John qui s'est tapé un délire là-dessus. Plus tard, quelques années après, ça a donné une bande dessinée qui a eu quand même un succès assez intéressant dans le monde de la bande dessinée française. Et puis, nous, on a toujours été un peu amoureux du donjon. On s'est dit, mais mince, il faudrait en faire un jeu, parce que bon, on aime bien ce genre de délire. On aime bien les jeux, coopératifs, comme tu le sais. Et puis on s'est dit, il faudrait trouver qu'on fasse quelque chose. Et alors là, on a eu l'idée de contacter deux auteurs assez prolifiques. On a contacté Antoine Boza, je ne sais pas si vous connaissez.
Non, je ne connais pas.
Un mec qui monte. Ainsi que le désormais très célèbre Ludovic Maublanc, hein, le mec qui a fait Cyrano, tout le monde connaît Cyrano. Et on s'est dit, en mettant le grain de folie de Ludo et le sérieux de Antoine, enfin, faut savoir que Ludo peut être sérieux et qu'Antoine peut déconner aussi. Dans un shaker, si on les enferme tous les deux dans une pièce avec juste les bandes dessinées Nahulbeuk, les MP3 et du papier, des crayons et des cartes blanches, ils devraient pouvoir faire un truc. Et ben, ils ont fait un truc.
C'est ce qu'ils ont fait.
Voilà. Et donc après, on est allé voir John, enfin Monsieur Pen of Chaos, en lui disant, écoutez, on aimerait bien pouvoir travailler sur le donjon et puis on a fait ça. On a fait faire ça.
Ouais.
Jeter un œil à ça. Est-ce que ça vous plaît? Et il a pas du tout été imperméable. Ça lui a vraiment bien plu.
Ouais.
Et moralité, il nous a dit, OK les gars, allez-y, go sur la licence. Et donc nous faisons le jeu du donjon de Nahulbeuk.
Alors j'imagine que c'est aussi délirant. Si on reprend l'historique même de Repoprod, on sait que c'est souvent des jeux délirants, mais qui sont bien pensés. On vous attend là-dessus évidemment. Comment est-ce qu'on peut transférer une saga MP3 qui est complètement débile et qui a énormément de succès en un jeu de plateau et qui va fonctionner comme un jeu de plateau? Parce que là, on est dans un cas où il y a plein de gens qui ne connaissent pas Nahulbeuk. Il y en a, je jure.
C'est sûr, mais le principe, et c'est pour ça, comme vient d'expliquer Cédric, on ne voulait pas
faire un jeu sur le donjon de Nullbuck, absolument. Ce que l'on voulait, c'est faire un bon jeu sur le donjon de Nullbuck. Maintenant, il y a des gens qui aimeront et des gens qui aimeront pas. Ça, évidemment, ça, c'est ça dépendra de chacun. Mais ce qu'on voulait vraiment, c'est une mécanique et un jeu qui colle à fond à l'univers. Donc la première étape n'a pas été de faire ce que beaucoup de gens font, d'aller chercher la licence et puis de trouver des auteurs. C'est de demander à des auteurs de nous faire un jeu sur le donjon. Et comme il était bien, et comme il était bon et qu'il répondait à la licence, on a eu accès. Comment est-ce que ça fonctionne et pourquoi est-ce qu'on pense que le jeu est tout à fait porteur? Mais la première chose, c'est que c'est un jeu coopératif. Un jeu coopératif, ça permet de mettre de l'ambiance, on le sait. L'idée, c'est que chaque joueur va jouer un personnage. Et l'idée géniale de Ludovic et d'Antoine, c'est que les combats, parce qu'évidemment c'est un donjon et donc il va y avoir des créatures, on va se péter la gueule, simulent exactement ce que nous on avait en tête et de ce qui ressort des podcasts. C'est-à-dire un espèce de gros chaos dans lequel des gens vont crier des trucs, on va entendre des pifs, des bastons, des chaussettes, etc. Et puis une fois que tout le monde est calmé, une fois que le minuteur a sonné, on regarde ce qui s'est passé, on regarde qui a pris des pains. Voilà. À côté de ça, évidemment, il fallait faire tous des tests, il fallait faire des tests d'intelligence, de dextérité, etc.
Il faut passer de niveau à un moment.
Bien entendu, Chaussée. Il faut passer de niveau.
Chaussée.
Ta gueule, pam. Et donc, évidemment, pour ça, il fallait des outils et sont les tuiles du destin, qui sont des belles petites plaques de carton qui permettent de faire toutes les différentes épreuves. Il y a des tests d'adresse, de mémoire, de dextérité, d'agilité, de rapidité. Et j'en oublie, le test de coordination, entre autres.
D'accord. C'est un jeu coopératif, monsieur Gomo.
Oui, absolument. Sachant que, néanmoins, les elfes et les nains ne s'aiment pas.
Non.
Bon. Donc oui, on va coopérer. En fait, sur le principe du jeu, on va régulièrement prendre une salle de donjon, une nouvelle salle de donjon à explorer. Donc ça commence par la porte du donjon. Mmh. Et ça va aller jusqu'au bureau de l'infâme Zangdar.
N'est-ce pas ?
Et dans chaque salle, nous aurons une petite histoire qui nous est racontée sous forme de bulles, de phylactères, pour ceux qui ont Wikipédia. Et donc, à chaque fois, on va lire cette bulle et on va prendre des décisions sur ce que l'on fait. Alors, est-ce que l'on va combattre la garde ou est-ce que plutôt on va essayer de crocheter la serrure? Suivant le choix qui est fait par les joueurs au vote, eh bien, soit effectivement on va combattre la garde, dans ce cas-là on va utiliser le principe de baston que Thomas va vous résumer après, parce que je vois qu'il en brûle d'envie, ou bien nous allons tenter de crocheter la serrure en faisant un test de dextérité. Alors, test de dextérité, je le fais en live pour nos audio-spectateurs qui n'ont pas l'image. Voilà. Je suis en train, alors que le temps est lancé, oh mon dieu, c'est dur, oh, ça va être infâme au micro, ah mince, je n'y arrive pas, je suis en train de faire un château de cartes. Alors, sur la droite, on peut s'apercevoir que les deux cartes, l'une sur l'autre, viennent de tomber, alors que sur la gauche, elles tiennent fièrement sur la table. Je reprends mon château de droite, les deux cartes, l'une sur l'autre. Oui, c'est gagné. Je mets la carte supérieure, clé de voûte de l'édifice. J'entame les cartes du haut. Et c'est gagné! C'est un magnifique château de cartes à base de 7 fils de destin qui vient d'être réalisé sous vos yeux émerveillés et larmoyants, je le constate.
C'est vrai, je suis tout mouillé.
Bon. Donc, j'ai réussi à crocheter la serrure du donjon. Donc, nous allons passer à la tuile d'aventure suivante.
Mais donc, voilà. Cette épreuve de dextérité n'est faisable que pour un personnage qui est capable de crocheter la serrure.
Alors, en fait, les joueurs vont décider, selon leurs compétences, ouais, c'est toi le voleur, c'est toi qui crochette la serrure, mais on peut avoir des épreuves simultanées. Ou par exemple, il y en a qui sont en train de combattre la garde pendant que le dernier essaie de forcer la herse pour pouvoir sortir de la pièce le plus rapidement. Et donc, pendant que les autres sont en train de faire les comptes, en train de s'échanger des cartes autour de la table bruyamment, en secouant tout dans tous les sens, toi, tu essaies de faire un château de cartes parce que tu essaies de crocheter la serrure. Et ce n'est pas facile, hein.
D'accord. Ok, donc on tire une case de donjon, il y a une série d'épreuves, et une fois qu'on a résolu les épreuves, comment est-ce qu'on voit les épreuves en fait ?
Eh bien donc, ce qui est très simple, ici j'ai tiré la première salle du donjon, c'est-à-dire le niveau A, et il y a quatre versions de la porte d'entrée du donjon. Ici, je vais l'expliquer, voilà, sachant que le jeu est toujours en développement, et donc il y a des choses qui peuvent changer, mais donc, nous voilà à la porte du donjon. Il y a trois choix qui s'offrent à nous, soit on frappe à la porte, soit on pirate le digicode à manivelle, soit on braille en insultant le maître du donjon. Alors, maintenant, je pourrais expliquer un peu plus aux joueurs, je vais dire un peu ce qui se passe. Ben, si on frappe à la porte, on ouvre la porte, on continue l'aventure, par contre, on doit piocher les cartes destin, et le prochain monstre que l'on devra affronter sera le plus fort de ces quatre-là. Donc là, il y a un bel petit choix stratégique sur le futur à choisir. Si on pirate le digicode à manivelle, le principe, c'est que l'un des joueurs doit nous faire un test de dextérité, n'importe lequel, mais celui qui se sent suffisamment adroit. Pourquoi ? Parce que s'il rate, le démon à l'arme hurle à tue-tête Et le marqueur de la vigilance de la garde va augmenter.
On va en parler tout de suite.
Si ça rate, on va rentrer dans le donjon de Nullbuck, quand même, mais si on rencontre la garde plus tard, elle sera beaucoup plus puissante. La dernière chose, c'est brailler en insultant le maître du donjon, la garde sort, on leur pète la gueule, ou en tout cas on tente de leur péter la gueule, et en fonction de l'issue du combat, on verra ce qui se passe. De toute façon, on rentrera dans ce cas-ci dans le donjon, mais dans un des deux cas, un, on sera blessé, et en plus, la vigilance de la garde sera plus ou moins élevée. Il faut savoir que la garde, elle peut revenir à plein de moments dans le jeu, et elle ne fait que devenir de plus en plus puissante.
Et elle apparaît dans une...
En fonction des salles. Il faut chaque fois voir qu'au début de la partie, on constitue un donjon. Je ne sais pas faire le calcul de tête de possibilités de donjons différentes, mais chaque partie aura un donjon différent, donc les choix des aventuriers seront différents.
Il y en
et
a 4 exposants 14, pour l'instant.
Voilà. Sachant que le jeu est toujours en développement, donc ça sera peut-être 4 exposants 12, avec plus de Zangdar, etc. Mais ça, les gens verront quand ils achèteront le jeu.
Ok, donc on parlait des combats. Il y a une chose un peu spéciale qui est devant moi, qui s'appelle la planche à pain, pour l'instant.
La planche à pain,
voilà. Ou le baphomètre.
Ou le baphomètre. Donc ça, c'est ce qui nous permet de résoudre les combats quand on rencontre une créature, ou la garde, ou je ne sais quoi.
Tout à fait. Il faut dire, que chaque joueur va avoir une fiche de personnage. On tire ça aléatoirement au début. Et par exemple, si Cédric est le barbare...
Bon, donne-le-lui. C'est le barbare.
Ouais, baston. Donc, si je suis le barbare, j'ai certaines compétences et certaines combinaisons qui apparaissent sur ma feuille de personnage. Bon, déjà, je vois que j'ai 5 points de vie. C'est pas mal, hein. Le barbare est costaud. Et j'ai 3 bastons qui apparaissent composés avec des lettres différentes. 3 combinaisons. J'ai baston, j'ai spam et j'ai paf. Quel est l'intérêt de ces mots ? Eh bien, lorsqu'il va y avoir un combat... On va recevoir des cartes avec des lettres dessus. On va chacun recevoir un certain nombre. Moi, je suis barbare, j'en reçois 8. Mais Thomas, qui est le nain, en reçoit 7. Toi, qui es le ménestrel, mon ami, tu en reçois 7. Et donc, on va tous recevoir nos petites cartes. Lorsqu'un combat se présente contre un monstre, le monstre a un certain nombre de points de vie qui vont être indiqués sur le baphomètre. On lance le chrono dans le temps indiqué. Si on est dans les premières salles du donjon, c'est sur la flèche verte, puis après sur la flèche orange, et après sur la flèche rouge quand on est en troisième salle du donjon.
Donc ça, c'est l'objet, le minuteur, c'est une minuterie réglable.
Le minuteur est réglable. Et donc, nous allons échanger nos cartes.
Ce n'est pas une contrepétrie.
Le minuteur est réglable. Non, ce n'est pas une contrepétrie, je ne pense pas.
Quoique.
Le minable est régleur. Bon, ok. Et nous allons donc échanger les cartes tous en même temps au départ du chronomètre. Bon, je dirais, il me faut un A, il me faut un A. Allez, donne.
J'ai un micro à la main.
Échange, tiens, je te donne un W. Ok. Voilà. Et là, alors, attends.
Un
N, il me faut un N. Il me faut un N.
Attends, il me faut un E. Il y a un E.
Biston.
Comment ça, biston, c'est pas juste?
Mais si, moi, je suis barbare, j'ai le droit de faire une faute, je suis lettré.
Ah, d'accord.
Ok.
Une fois un P, une fois un P.
Tiens.
Un P.
Ouais, voilà, c'est fini. Okay.
Donc, là, nous allons comparer notre force à la force du monstre. Donc, toi, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, c'est naze.
J'avais un micro à la main.
Ok, bon, on a un monstre qui a 12 de résistance. Moi, j'ai placé un baston.
Un biston, oui.
Ouais. Alors, le barbare a une capacité. Pour chaque combinaison qu'il fait, il a le droit de faire une faute.
D'accord.
Donc, j'ai placé un biston et j'ai placé un spam.
Très fort.
Donc 5 coups et 3 coups, hop, nous augmente de 8 sur le baphomètre. Et Thomas, il a fait un amort pour 4 coups. Ça fait donc, oh, pile poil 12.
Incroyable.
Le monstre est donc défait dans notre souffrance.
Et comment est-ce qu'on avait défini la force du monstre ?
Eh bien, soit sur la tuile donjon, soit lorsqu'on tire un monstre, la force du monstre est indiquée et elle correspond au nombre de joueurs. Donc, là, j'ai pris 12, j'admets, c'est un peu trivial, mais voilà, 12, ça aurait été la force d'un orque à 5 joueurs, par exemple.
D'accord. Ok. Donc là, on est sur l'ensemble des mécanismes. Donc, il y a la baston, les épreuves de dextérité.
Non, attends, t'as déjà fait un jeu avec des donjons ? Qu'est-ce qu'il y a après la pièce ? Qu'est-ce qu'il y a après le monstre ?
Il y a le boss du donjon ?
Non, il y a le trésor !
Ah, pardon.
Et les objets magiques, enfin, qu'est-ce qu'on
fait ? La statue de Glandolfera ?
Ça, c'est le dernier.
Ah, d'accord.
Alors, donc, il y a des cartes de trésors, des cartes de fouilles que l'on trouve. Donc, on peut trouver des boucliers magiques, on peut trouver de l'XP.
Ah,
parce que quand on a de l'XP...
On passe de niveau !
Eh oui ! Donc, on peut avoir un sandwich troll qui nous permet de récupérer des points de vie. Et surtout, on peut avoir des cartes d'équipement. Donc, par exemple, moi, si j'étais barbare, enfin, je suis barbare, j'aurais bien aimé piocher la hache à triple tranchant. Non pas parce que c'est embêtant à prononcer, mais simplement parce que la hache à triple tranchant remplace un O dans les combinaisons. Et moi, j'ai une combinaison qui s'appelle baston. Mm-hmm. Donc, si je peux remplacer mon O, puis qu'en plus, à chaque fois, je peux faire une faute d'orthographe, je peux faire des pistons. Et ça sont quand même des mots qui vont marquer.
C'est fort.
Voilà. Donc, il y a des trésors aussi qui vont nous permettre de passer à... enfin, de passer plus facilement les épreuves suivantes, etc.
D'accord.
Et il faut savoir aussi que nous avons des...
pièces d'or.
Voilà. Et les pièces d'or peuvent aussi nous permettre d'acheter nos niveaux.
Okay.
Sauf que le nain, il ne veut jamais nous les filer.
C'est pas très réglo, hein, d'acheter son niveau.
Ben, c'est bien, mais tu sais, par les temps qui courent dans les donjons.
Il y a une chose qu'on a oublié de dire, c'est que lors des combats, évidemment, donc les joueurs vont s'échanger des lettres le plus vite et aussi le plus stratégiquement possible. Pourquoi ? Parce que chaque joueur a des pouvoirs spéciaux. Certains de ses coups auront un effet. Par exemple, le ménestrel, quand il crie « poème », un des joueurs est transformé en une brute de combat et reçoit des cartes en plus. L'elfe, si elle fait son mot principal qui est une bise, elle charme le monstre. Ça fait pas beaucoup de points, mais certains monstres ont des capacités spéciales très dangereuses, et il faut absolument que l'elfe les contre. Donc il faut que, avant de lui péter sa gueule au monstre, il faut faire une bise. Ou, si on est face à un monstre de nouveau très puissant, on peut espérer que le ranger fasse son mot-clé qui est bien, et tous les autres joueurs reçoivent une carte parce que c'est le pseudo-chef et qu'il est bien, etc., etc. Par exemple, la magicienne, elle, son mot-clé, c'est Waza.
Non, c'est Waza.
Et plus il y a de A, plus c'est puissant. Évidemment,
quand
je disais sur les cartes, il y a quelque chose que je n'ai pas encore parlé, c'est qu'il y a des pains. Mm-hmm. Certaines cartes en ont. Et à la fin du combat, en fonction du nombre de pains...
Donc il est écrit pain sur certaines cartes qui constituent le mot. Quoi.
Voilà. Mm-hmm. Vous pouvez avoir pris des coups au combat. Et par tranche de pain complet, vous recevrez une blessure. Donc, plus vous combattez, il faut combattre intelligemment quand même dans le chaos, placer les bons coups pour s'assurer stratégiquement de ne pas échouer contre le monstre. Et en plus de ça, il faut essayer de ne pas se prendre trop de mandales dans la gueule, parce que sinon, on est mort.
Je vois par exemple le ménestrel, à partir de 3 pains, il a une blessure, donc c'est comme ça qu'on calcule.
Exactement. Mais par exemple, le nain, à partir de 4 pains, il a une blessure.
Il est plus fort.
Il est plus fort. Il est plus résistant parce que je suis un nain.
Ok, donc on se rapproche tout doucement du bout du donjon et il se passe quelque chose.
Eh bien, il se passe qu'au bout du donjon, on va rencontrer Zangdar. Voilà. Mais bon, auparavant, dans toutes les salles de donjon qu'on va traverser, nous allons traverser aussi des épreuves aussi diverses que variées. Mmh. On a parlé du château de cartes, mais on pourrait très bien avoir des épreuves où il va falloir faire le tour de la table avec une carte sur la tête sans que celle-ci ne tombasse, ne chuitasse. On va avoir d'autres épreuves où il va falloir dégager un éboulement, où on va devoir se faire passer les cartes en les jetant à deux mains et faire le tour de la table aux cartes et qu'elles reviennent au premier pour dégager l'éboulement. Mmh. On va avoir un test d'intelligence commun. Alors ça, c'est pas facile si on joue avec le nain, Thomas. Donc, parce que là, c'est un memory à 16 cartes qui va se jouer et on joue chacun son tour en 30 secondes.
Pendant le
ça a l'air tout simple et tout con.
Mais non.
Ça ne l'est pas tout à fait.
D'accord. Et donc, on avance.
Et donc, par exemple, les joueurs pourraient tomber dans la salle de bain terrifiante de Zangdar.
Oh non.
Pour échapper à l'asphyxie, les héros doivent effectuer simultanément les tests suivants. Mm-hmm. Un héros fait un test de dextérité pour reboucher les flacons de sel de bain en triton séché. Le test de dextérité, c'est faire un château de cartes. Pendant ce temps, les autres joueurs, sauf un, doivent faire un test d'équilibre pour aller ouvrir le fenestron d'aération sans glisser sur une savonnette. Et le dernier doit faire 5 tests de rapidité pour atteindre le rabat du bidet et emprisonner l'odeur qui en émane avant l'asphyxie de la compagnie. Voilà. Et donc ça, le principe, c'est que tous les joueurs vont devoir faire des épreuves différentes en même temps. C'est très difficile de rendre l'ambiance d'un jeu d'ambiance par radio sans y avoir joué, etc. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que le jeu a été testé et fonctionne à fond et que c'est un bon média pour que les joueurs se retrouvent dans l'ambiance du donjon. Les tests sont cons, mais c'est comme ça que le donjon est. C'est l'ambiance du donjon. Les combats sont chaotiques, mettent plein d'ambiance, un peu à la manière d'un jeu comme Pit, même si c'est pas du tout la même chose et que c'est beaucoup plus stratégique, sans entrer dans des débats compliqués de stratégie par stratégie. Et donc voilà, la meilleure solution, c'est de le tester et de comprendre exactement ce qu'il émane de cette boîte où les joueurs vont pendant une demi-heure, une heure quart, vraiment vivre les aventures. Des aventuriers du donjon de Nalbuk.
Alors justement, les aventures se terminent comment ?
Soit par la mort de la compagnie entière, soit...
Tagazok, mon frère !
Soit par le smashage de tronche de Zangdar. D'accord. Dans ce cas-là, bah, la compagnie reçoit la 12e statuette de Gladolfera et la partie est gagnée. D'accord. Petit détail important, il y a des points de destin. Et si un joueur meurt en aventure...
Tagazok, mon frère.
Soit parce que c'est le nain et qu'il est destiné à chaque fois à aller au paradis et revenir, il a une possibilité de ressusciter grâce à ses points de destin. Mmh. Donc un joueur éliminé au jeu ne quitte pas la partie, sauf dans les quelques minutes avant la fin du jeu, il est possible que les joueurs ne puissent plus se régénérer. Mmh. Et donc voilà, la partie se fasse sans un ou deux joueurs, mais c'est vraiment fondamentalement très rare.
Okay. L'ambiance du jeu est encore mieux rendue visuellement, puisque les illustrations sont les illustrations de la bande dessinée. C'est-à-dire que vous travaillez avec la personne qui a fait la bande dessinée.
Oui, nous avons une collaboration donc, avec Claire Delune, qui est l'éditeur de la bande dessinée. Ce sont les illustrations de Marion Poinceau, qui a fait les BD, par conséquent. Et donc, on a pu accéder donc, à toutes ces illustrations en haute définition, et on les a un peu remaniées pour pouvoir les adapter à un jeu de société. D'ailleurs, il y a un élément du jeu duquel on n'a pas parlé. Je vais y venir parce qu'il y a deux, trois petites illustrations. Il y a une chanson du Donjon de Nahulbeuk qui s'appelle « À l'aventure compagnon ». Eh bien, on s'est permis de la modifier un petit peu pour en faire un livret d'initiation. C'est-à-dire que lorsque les joueurs vont jouer la première fois au Donjon de Nahulbeuk, ils n'ont pas besoin de connaître les règles. Ils vont juste prendre le Donjon d'initiation, lire la petite page, faire l'épreuve suivante, la petite page, l'épreuve suivante. Et ça va permettre à tous les joueurs d'apprendre simultanément les règles du jeu, sans se lancer dans le livret, mais directement en vivant le jeu.
Un truc important, c'est que on s'est rendu compte en testant le jeu, parce que même si le jeu était déjà bien abouti quand on a commencé, on a fait plein de tests, on s'est rendu compte qu'il marchait avec les gens qui ne connaissaient pas le donjon de Nahulbeuk. Pour des raisons assez évidentes, en fait, avec le recul, c'est que la fantasy, tout le monde connaît. Et l'esprit crétin d'aventuriers débiles, ça fonctionne aussi. World of Warcraft n'est aussi pas étranger à ça. Ce qui fait que, qu'on en soit grand adepte du Donjon de Nahulbeuk ou pas, ça fonctionne très très bien.
Ça veut dire que d'un point de vue exportation, c'est quelque chose qui est potentiel aussi.
Mais en fait, étonnamment, au départ du projet, on avait tout basé sur simplement le marché francophone. Et maintenant, pour l'avoir montré et fait tester à tous nos partenaires au niveau mondial, ils veulent tous le jeu. Donc on va voir, la mécanique est quand même des combats et fort linguistiques, même si on n'est pas dans le Scrabble, hein, je vous rassure, mais il faudra l'adapter aux langues, etc. Mais le jeu plaît indépendamment
Orbe
de la licence.
52.
Merci monsieur.
Chaussettes.
Merci.
Vous avez aimé ce podcast, alors appuyez sur la touche « Trop cool ». Vous n'avez pas aimé ce podcast, alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.